Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est comme tous les dimanches de 11h à midi avec Maurice Efti. Maurice, bonjour.
Bonjour, de la diorite verte, du calcaire jaune, des paysages infinis et ces gros nuages qui roulent dans le ciel. Monte Alban.
La dernière fois, nous étions à Oaxaca. On se dirige donc du côté de Monte Alban.
Frédéric, vous le prononcez admirablement, Oaxaca.
Sans rouler le R et tout.
On dirait que vous êtes totalement espagnol.
Oui, je suis espagnol.
Vous êtes espagnol d'origine? Oui, vous faites partie de ceux qui ont traversé le détroit de Gibraltar en 711 ou...
En 711, non, quand même
non,
pas.
Non. On peut avoir des origines africaines aussi.
Oui,
est...
je les ai aussi.
Ben voilà, c'est pour ça que je parlais de 711 et de l'invasion de l'Espagne. Non, non, mais si on se replace à Oaxaca, c'est bien pour être hispanique aussi, parce que le site de Oaxaca, c'est vraiment la ville coloniale du Mexique par excellence, avec ce petit rien de chaleur, avec ce petit rien qu'on trouverait par exemple en Andalousie. Il y a un petit rien de sévillant, mais avec attention, tout ce côté indien qui vient atténuer cette verve, cette puissance, je dirais même cette agressivité hispanique. Tout à coup, là, il y a un manteau de douceur, il y a une suavité, ça va bien à la langue. Suavidad en espagnol veut bien dire suavité, comme on pourrait le traduire à la française. Mmh. Même si c'est une forme de néologisme, mais il y a quelque chose de très tendre et de caressant dans cette ville. Et il y a surtout l'environnement.
C'est-à-dire que... Donc là, on est à Monte Alban, hein?
Non,
non, je toujours à Oaxaca.
J'ai envie d'être au fond de la vallée d'abord, Frédéric, parce que monter à Monte Alban, oublions peut-être le mot ou le nom de baptême. Monte Alban, bien sûr, c'est la montagne blanche, mais au contraire, ce nom de baptême, j'aimerais l'éliminer, mais c'est cette montée qui m'importe. J'aimerais qu'on soit encore plus nostalgique et qu'on revienne, par exemple, je crois que le premier qui a découvert Monte Alban, enfin qui l'a fouillé, c'est Batres, ça devait être en 1902, donc c'est un site ancien, c'est un des premiers qu'on a fouillé au Mexique, sur le plan scientifique. Et là, j'aimerais qu'on parte de cette vieille ville, on entend sonner des cloches, on est vraiment dans un univers colonial, avec la lenteur, les femmes qui portent leur rebozo, les hommes avec des sarapes, le marché, et cet homme qui part avec ses mules, quelques ouvriers, et qui se dirige comme cela dans un des angles de la vallée. Parce que c'est vrai que c'est très attirant de voir comment fonctionne cet ensemble de Oaxaca sur le plan géographique. Les montagnes sont pelées, un peu comme notre Jura, sinon qu'elles n'ont pas la couleur jurassique. Il y a bien le calcaire, bien sûr, il y a bien cette Sierra Madre en même temps un peu adoucie, mais il y a surtout cette verdeur étrange qui fait qu'on tourne entre cactus et acacia et arbres un peu fous comme cela. Mais qui a aussi un côté... Monte Alban a dû être à l'origine une colline boisée, et elle se trouve, moi je vais dire que c'est une île. C'est un ensemble d'îlots au milieu d'un immense Y.
Et c'est à combien de kilomètres de Oaxaca?
Oh, c'est à 9 kilomètres, c'est rien du tout.
Ah oui, en effet, oui.
Si on cherche, on trouve Monte Alban. Et
donc
si
on peut y aller à pied avec nos mules.
On peut partir avec les mules, et on va monter en lacet dans ces broussailles. Aucune banlieue à l'époque, peut-être un aqueduc qu'on vient de traverser qui amène de l'eau à la ville. Il y avait des sources près de Monte Alban, et si je dis cela, c'est qu'il y a effectivement, aux alentours de 500 avant notre ère, la possibilité de s'installer sur un de ces îlots. Il y a déjà des sites pré-apothèques dans cette vallée, mais tout à coup, là, cette partie centrale, cette espèce de petit archipel au milieu, va devenir un lieu crucial où on aura envie de s'établir et de faire quelque chose qui est assez rare chez les précolombiens, parce que finalement, Monte Alban, à la grande époque de Monte Alban, c'est une ville. C'est une ville sur une colline montagneuse, sur une montagne. Et on va grimper petit à petit avec les mules de Batres jusqu'à 2000 mètres. Alors, à l'époque, c'était des forêts, on s'y est installé, et je résume rapidement l'histoire, comme cela, d'un site. Un jour, l'homme qui dirige cet endroit, les hommes, cette classe, cette élite, va décider d'araser le sommet de la montagne et de la creuser carrément dans son centre et de consacrer les deux extrêmes de cette cuvette qu'on va créer volontairement au sommet même de la montagne, de l'accès, de la laisser accès telle qu'elle est, c'est-à-dire nord-sud. Eh bien, si je dis nord et si je dis sud, je pense déjà à ces deux points qui vont se lever vers le ciel, qui sont les grandes acropoles qui font l'axe de Monte Alban, et la partie creusée du centre, eh bien, je vais l'aménager comme une fantastique place. Je vous rappelle, on est posé à 2000 mètres d'altitude et autour de vous, il n'y a que le vide jusqu'à 1600, un nid d'aigle véritable. Et là, dans cette partie centrale, au lieu de regarder le paysage, au lieu de tourner votre balcon du côté du paysage, eh bien, au contraire, tous les bâtiments de Monte Alban vont se refermer sur l'intérieur de cette cour, de ce patio étrange. Et d'un seul coup, vous venez de former le centre cérémoniel. Vous prenez votre main et comme le grand semeur de Van Gogh, tout autour, dans tous les petits monticules qui traînent encore entre 2000 et 1500 mètres, vous allez semer des palais, vous allez semer des huttes bien fabriquées. Quand je dis palais, c'est qu'en fait, ce sont des tombes. C'est-à-dire que sous chaque résidence zapothèque, à la belle époque, il y aura les ancêtres, si vous voulez. Il y aura une tombe royale, il y aura une tombe très simple, mais partout où l'on va construire autour de ce centre cérémoniel, partout il y aura des formes bien particulières avec un patio, des palais qui vont fermer, je dirais, une sorte de quadrilatère, et au centre, sur un des angles ou dans la formation même intérieure du quadrilatère, des tombes. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que en quelques années, on va en trouver des centaines autour du cœur de Monte Alban. Vous avez vos mules, vous montez petit à petit, il n'y a pas encore de route, il y a une sorte de sentier, et vous arrivez sur une montagne pelée qui a simplement une forme étrange. Quand je dis étrange, c'est que très vite, avec l'œil d'un archéologue, même si vous êtes en 1902, Batres va deviner par les formes de ces deux acropoles au nord et au sud que dessous il y a quelque chose de très consistant, qu'il y a de la pyramide. Et que quand on regarde du côté nord, il y a non seulement une pyramide, mais qu'il y a ce qu'on appelle le patio hundido, c'est-à-dire une sorte de place intérieure qui est au pied d'une pyramide, qui est carrément creusée comme un entonnoir. Et quand vous voulez sortir de l'entonnoir, vous allez vous trouver, quand vous aurez creusé, quand vous aurez restauré, devant une douzaine de colonnes. Mais Frédéric, des colonnes qui font 2 mètres de diamètre.
Oui, en effet. Oui.
Quand vous avez une douzaine de colonnes comme ça qui montent pas très hautes, vous arrivez juste à passer dessous, parce que vous êtes européen, l'indigène est plus bas. Et c'est vrai que les portes zapothèques ou mixtèques, on les a eues à Mitla lors de nos dernières rencontres, on se baisse. Mais là, le fait d'avoir mis ces masses de 2 mètres de diamètre, c'est le portique le plus puissant qu'on puisse imaginer. Vous passez ce portique, là j'étais à l'intérieur, et tout à coup devant vous, vous avez cet escalier qui coule carrément sur la place centrale, cette place qui a été vidée, qui a été aménagé, on a dû enlever plusieurs millions de mètres cubes de terre.
Oui.
Il y a déjà...
C'est pour l'aplanir alors que c'est une montagne.
Ben oui, il y a déjà 200 ou 300 000 mètres cubes qui vont rester comme ça, comme deux pignons à chaque bout, comme deux pointes montant vers le ciel à chaque bout. Et là devant vous, vous avez cet écoulement de l'escalier qui descend majestueusement, une trentaine de mètres de large comme cela. Et vous avez ce vide de la place. Selon la saison, elle est gazonnée en vert. Selon la saison, elle est roussie en jaune. Vous avez tous ces bâtiments qui, par cour intérieur, par pyramide interposée, par escalier, viennent vous regarder encore une fois de plus à l'intérieur. Et en face, vous avez cette immense deuxième acropole. Et si vos yeux passent par-dessus, il y a le paysage à l'infini de ces grandes vallées autour de Oaxaca.
Nous sommes à Monte-Alban, à peine à quelques kilomètres de Oaxaca. Vous disiez il n'y a pas très longtemps que Oaxaca était une ville très très importante. Est-ce que Monte-Alban était également une ville très importante?
Ah, ça n'est... J'ai surtout dit que ça n'était pas seulement un centre cérémoniel à l'époque précolombienne, que c'était une véritable ville. Bah, important, oui, quand on pense que tout a commencé sûrement aux alentours de moins 500 avant Jésus-Christ, je le disais tout à l'heure. Et puis, l'éclosion absolue, c'est au début de notre ère. Là, les Apothèques sont vraiment installés et tout s'écroule doucement aux alentours de 800 après notre ère. Alors, sur 1250 ou 1300 années, c'est vraiment un boom extraordinaire. Quand on voit les constructions, les quantités de pierres, de roches qu'il a fallu déplacer, l'importance de cette métropole, Frédéric, je vous dirais 20 à 30 000 habitants au minimum. Donc, c'est vraiment quelque chose d'énorme pour l'époque précolombienne. Oui.
Mais alors, pourquoi ils ont creusé autant comme ça?
Ah, ben, pour créer vraiment...
2000 mètres comme ça et surplomber...
D'avoir
une raison quand même.
D'avoir aménagé le centre, tout simplement, c'est surtout pour créer vraiment la forme qu'il fallait pour ce centre cérémoniel. C'est-à-dire, je l'ai axé tout à l'heure nord-sud, j'ai mis ces grandes acropoles, et en fait, au centre, on va peut-être le visiter doucement. C'est-à-dire, comme si on était arrivé avec nos mules, qu'on avait travaillé pendant quelques saisons, je dirais même qu'on peut continuer, quand vous parlez d'importance du site, on a trouvé plus de 500 stèles ou pierres gravées et travaillées, et on a trouvé effectivement de nombreuses tombes. J'en évoquerai une surtout, c'est celle, la numéro 7, parce que de 1931, grosso modo, jusqu'en 1949-50, Alfonso Caso, qui est peut-être le père de l'archéologie mexicaine, a travaillé toutes les saisons, c'est-à-dire il a passé 18, on appelle ça les temporadas en espagnol, hein, 18 saisons sèches sur le site de Monte-Alban pour découvrir ce qu'était vraiment Monte-Alban. 18 saisons avec des ouvriers, c'est du travail, ça situe un peu la grandeur du site. Alors, puisque vous aimez les chiffres, je dirais que le site lui-même fait déjà presque 7 km carrés. C'est beaucoup.
Quand même,
et puis, ouais. Si je prends l'ensemble, alors il y a des petits sites secondaires. J'ai évoqué ces collines qui sont autour avec les tombes. Si je prends El Gallo, si je prends Cerro de Atzompa, eh bien là, j'arriverai carrément entre 20 et 40 km carrés uniquement pour la zone urbaine, pour la zone qui a été occupée pour ce qui est véritablement l'ensemble de Monte-Alban. Et sur ces 172 tombes que Casso ou que son prédécesseur vont découvrir, il y a la tombe numéro 7. On en a parlé à propos du trésor de cette tombe numéro 7. Ça vous dit peut-être peu de choses, mais quand on tombe, bah, prenez la forme d'un king size ou d'un queen size, hein, d'un grand lit comme ça. Et ce serait l'intérieur de la tombe, ce serait le fond de la tombe. Elle est construite, elle est en forme de fausse voûte. On y pénètre en enlevant une pierre importante, une sorte de dalle qui fait porte. Et tout à coup, vous vous trouvez devant cette poussière qui est jonchée d'objets merveilleux. Et quand je dis merveilleux, il y a naturellement de l'or. Les Mixtecs qui vont réoccuper cette tombe zapothèque, donc après les années 800 bien sûr, je dirais autour des années 1000, 1200 peut-être même, vont enterrer quelqu'un, et il y aura même 9 personnages, et ils vont enterrer quelqu'un en l'accompagnant ainsi de pratiquement 4 kilos d'or. Alors quand je dis 4 kilos d'or, il faut savoir que l'or ça peut être très fin.
Une vraie
être...
fortune.
Bah oui, c'est une véritable feuille de... Vous savez, on peut le transformer en papier d'alu. Hein,
ah oui,
l'or.
Complètement, très
donc,
fin. Oui.
4 kilos, quand vous en faites des simples parures, des perles toutes simples en cire perdue, et non pas des objets lourds, hein, tout ceci n'est que feuilles lourdes si vous voulez. 4 kilos, ça vous fait quelques objets. Il y avait quelques grammes d'argent, c'est le seul endroit où on a retrouvé autant d'argent en bijouterie. Il y a 300 grammes de bijoux en argent. Et on a même retrouvé le métal le moins utilisé par les précolombiens, c'est-à-dire le cuivre. Là, il y en a encore quelques grammes qui ont été retrouvés sur place, je crois quelque chose comme 200 grammes. Ce sont des chiffres qui sont simplement évocateurs pour une seule tombe inviolée. En l'occurrence, avec toutes ces saisons de travail, on va véritablement pouvoir visionner le site pour la première fois. Alors on pourrait faire une sorte de visite puisqu'on est à l'intérieur de ce patio. Là je viens de me laisser aller en bas des grandes marches. Vous avez ces énormes colonnes que j'évoquais qui sont derrière. Et puis devant nous maintenant, on a cette place complètement vierge avec une première stèle qui elle est plantée en plein centre, juste au pied de l'escalier. Et j'aurais envie de vous inviter sur la droite. On peut, si vous le voulez, chronologiquement remonter le temps de Monte Alban. Et ça, quand je visite et je fais visiter cet endroit, j'essaie toujours de passer d'un morceau du puzzle à l'autre. D'abord, j'aime bien me trouver devant... C'est une pyramide devant laquelle on a dû faire du faux Teotihuacan. Alors pour ceux qui nous écoutent, bien sûr, Teotihuacan, ça veut pas forcément dire quelque chose, mais Teotihuacan, on avait la liberté de 40 km² dans une plaine absolue, on mettait une pyramide devant, on mettait un complexe, on créait un entonnoir, on mettait des murs, on mettait des escaliers... La place était immense. Monte Alban, c'est l'inverse. Je suis coincé au sommet d'une montagne que j'ai moi-même arasée. Donc, il faudra faire avec peu de surface un maximum d'effets. Alors, une pyramide, des escaliers devant, et puis je vais inventer un entonnoir, c'est-à-dire une place fermée pour pouvoir danser, pour pouvoir créer un culte en plein air, mais qui soit invisible pour ceux qui sont dans la cour. Alors, je vais créer, par exemple, l'escalier qui descend. De l'autre côté, je mets un double escalier, comme une sorte de semi-pyramide. C'est-à-dire, vous montez, vous arrivez à plat, vous redescendez de l'autre côté. Et puis, au lieu d'avoir de la place, eh bien, je mettrai simplement deux murs de côté avec des escaliers de service, par exemple. Donc, ça me fait un enclos, ça me fait un patio fermé.
D'accord.
Alors, ce que j'aime faire, c'est pénétrer à l'intérieur de la pyramide pour voir si, par hasard, il y en a une autre dessous. Alors les archéologues ont naturellement été voir l'intérieur de cet oignon et on a retrouvé les bâtiments de la première époque. Alors à la toute première époque de Monte Alban.
Et comme d'habitude, construit
les uns sur les autres.
Les uns sur les autres.
Vous venez de faire le geste comme ça. On a vraiment envie de s'amuser à accumuler des objets les uns sur les autres. C'est la poupée russe. Eh bien, lorsqu'on va voir la petite poupée de départ, on pénètre dans un couloir et il y a un tunnel que les archéologues ont préparé et vous rentrez dans une salle qui est semi-éclairée par le sommet. On a quand même laissé quelques cabochons de verre pour avoir cette lumière tamisée. Et là, vous découvrez des blocs de pierre qui font des dizaines de tonnes qui sont simplement posés. Je dis posé, c'était appliqué, hein. Exactement comme je prends la paume de ma main et que je l'applique sur quelque chose qui a une forme oblique, juste pour donner la forme pyramidale. On a l'impression d'immenses panneaux, comme si Obélisque était venu ici et avait déposé ses menhirs les uns sur les autres en grandes plaques comme ceci. C'est de la force, c'est de la puissance. Ça, c'est la première idée. C'est vrai que ce côté mégalithique, on le ressent dans tous les départs de civilisation. Et puis ensuite, je ressortirai du tunnel. Attention, baissez la tête, juste pour voir le deuxième bâtiment. Et là, on va voir qu'avec la même idée, la même paume posée sur quelque chose, il me reste à prendre un silex ou éventuellement un galet et je vais commencer à creuser. Je vais dessiner sur ces dalles, je vais les graver, je vais faire de la publicité.
Thank you. Lie the woman and the man.
nous sommes en pleine visite. Là, tout à l'heure, nous étions dans un tunnel. On se dirige de quel côté? Qu'est-ce qu'on...
En fait, il faudrait vraiment que vous visionniez la place. C'est-à-dire que j'étais tout à l'heure...
Quelles sont les distances entre les...
Énorme. Énorme, parce que si je prends, par exemple, le maximum du nord au sud, c'est-à-dire ces deux énormes acropoles qui grimpent vraiment jusqu'au sommet. D'ailleurs, tout à l'heure, on était au nord, hein, et on pourrait traverser toute la place et se trouver au sommet au sud. Là, c'est vraiment l'apothéose. On a pratiquement 700 mètres de différence entre les deux extrêmes. Hein. C'est quand même une belle petite place. Hein. Et en l'occurrence, ça fait presque 300 de large. Alors, si je me replaçais sur mon grand bâtiment de tout à l'heure, eh bien, on vient de commencer par le premier bâtiment qui est à droite avec la pyramide, la cour creusée, le patio. Ensuite, y en a quatre qui se suivent comme ceci, jusqu'au dernier qu'on va visiter maintenant, où il y a ce côté publicitaire que j'évoquais avant le disque. Et ensuite, on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et de l'autre côté, alors, il y a carrément huit petits édifices qui sont collés les uns aux autres, qui font véritablement barrière. C'est pour ça que je disais qu'on ne voyait pas de l'intérieur de la cour. On ne voit absolument pas le paysage. Lorsqu'on est au fond du trou, on ne voit strictement rien. On est entouré d'escaliers et de bâtiments. Et il y a des chiffres, moi, qui a monté Alban, me paraissent absolument fabuleux. Si je prends, qu'est-ce qu'une terrasse ? Une terrasse, c'est quelque chose qui a été fait de manière artificielle, que l'homme a dû ériger, préparer pour mettre un bâtiment ou pas. Eh bien, uniquement quand je prends l'ensemble du site, on a plus de 2000, je crois que c'est 2100 terrasses aménagées. Uniquement pour Monte Alban, que l'homme a créé afin de construire quelque chose ou de les laisser simplement comme terrain plat, c'est-à-dire transformation de paysage, si je peux dire. Et les distances complètes, quand on voit la place centrale, sont effectivement assez surdimensionnées, parce que dans le centre, on a l'impression que c'est plus petit. C'est quand on pense en cours d'eau et qu'on imagine la grandeur, qu'on voit vraiment ce que représente la surface complète de Monte Alban. Alors maintenant, on va vers le bâtiment du fond. Il porte des noms ou des lettres étranges, c'est pas important. On était au 4 tout à l'heure, on arrive au M, entre deux, il y a le L. On a laissé des lettres et des chiffres comme ça. Mais ce qui est impressionnant, c'est que tout à coup, aujourd'hui, ce sont des faux. C'est-à-dire qu'on a voulu protéger les bas-reliefs, enfin, ces pierres taillées et sculptées. Donc, on les a toutes mises au musée, que vous aurez vu à l'entrée, là, tant pis, il n'y a plus de mules, il y a des bus, il y a des voitures, il y a un tourisme moderne. Mais l'endroit par où on rentre sur le site est aménagé en musée maintenant, qui d'ailleurs vient d'être refait de façon somptueuse. Et on a 300 sculptures de ce qu'on appelle les danseurs, les danzantes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un danzante ? Eh bien, c'est assez difficile à se le représenter par le son. Mais imaginez, par exemple, une sorte de marionnette ou de personnage désarticulé, c'est-à-dire quelqu'un qui a la tête de côté, qui peut avoir une coiffe, qui peut avoir la bouche très boudeuse, je dirais presque un peu Olmec, comme ça, avec une bouche à l'africaine, hein, très pulpeuse, l'œil souvent clos.
Grosse lèvre.
Très grosse lèvre, l'air un peu renfrogné, comme ça, et puis souvent l'œil clos, l'œil fermé. Ça, c'est un premier petit signe qui nous interpelle. Les épaules larges et qui en général prennent la forme de la pierre elle-même. C'est un peu comme l'obélisque de tout à l'heure. Enfin, là, je pensais bien sûr à cette pierre vierge que vous sortiriez d'une carrière, que vous choisiriez simplement parce qu'elle est plate et qu'elle a une forme X. Et dessus, vous faites une forme Y qui remplit la forme X. C'est-à-dire, si le personnage a des épaules larges, c'est parce que la pierre est large. Et puis, ses bras vont suivre pratiquement la forme. Les jambes vont se déformer un peu pour remplir la forme. Et ça, vous le dessinez simplement en frottant un galet. Vous me saisissez, c'est-à-dire vous faites une sorte de petite rigole sur la pierre, sur le calcaire ou la diorite, et vous obtenez un relief qui est juste marqué par la lumière parce qu'elles sont posées en oblique ou presque à la verticale contre les parois. Alors, celles qui sont en bas de la paroi, bien sûr, la paroi monte comme sur une pyramide, c'est carrément un flan caramel, si vous voulez. Hein. Vous posez votre flan caramel et vous appliquez contre le flan des petits carrés de chocolat. Et ces petits carrés, vous les sculptez, vous les travaillez, et la lumière, bien sûr, va donner leur relief à tout cela. Alors, ces personnages complètement désarticulés, souvent nus, avec de temps à autre un petit hiéroglyphe devant le nez ou à l'arrière des épaules, ils vont d'abord vous interpeller parce que ceux qui sont en bas sont très bien sculptés. C'est-à-dire qu'ils sont très forts, ils sont debout.
Combien de danseurs ?
Il y a plus de 300 sculptures qu'on a retrouvées.
Ah ouais, quand même.
Il y en a au musée, il y en a un peu partout.
C'est quoi, c'est religieux ?
Alors, attendez, ce qui est intéressant, non seulement c'est religieux, mais...
C'est l'armée du coin ou...
Ah, ce serait plutôt l'armée d'à côté.
Ah, d'accord.
On a pensé que c'était éventuellement des captifs. D'abord parce qu'on a remarqué qu'ils étaient nus. Il y a toutes sortes de théories. Hein. Il y a un tout petit détail assez curieux. Si vous vous approchez de ceux qui sont bien sculptés en bas, Par-dessus, vous en avez qui nagent comme ça. Hein. Ils ont l'air d'être allongés. Ils ont les mêmes ingrédients, vous allez le voir. Et puis en haut, on continue, mais il y a peut-être plus d'hiéroglyphes. On n'a pas besoin de lire à distance. Plus on va haut, moins c'est bien, moins c'est dessiné, si vous voulez. D'accord. Alors ceux d'en bas, ce qui est impressionnant, c'est que les plus beaux ont tous quelque chose qui nous interpelle très fortement, nous les hommes en tout cas. C'est que on a l'impression qu'à l'endroit du sexe, il y a une ablation. On a l'impression d'une pastille ronde, comme ça, bien sculptée, et d'une sorte de flot, souvent qui part en trois flots bien marqués, comme une sorte de Y bien marqué, en forme d'ondulation, comme si on avait vraiment supprimé le sexe et qu'il y avait un écoulement très fort qui se faisait, comme si on avait, par cette ablation, fait une sorte de sacrifice. Et tout à coup, on repense à l'œil fermé. Oui. C'est une théorie, c'est une hypothèse, c'est un peu plus la mienne que celle des autres.
Ah donc
mais
on ne sait pas.
Bah c'est difficile parce que les hiéroglyphes ne sont pas tous lus. Par contre, juste à côté, on a retrouvé des pierres identiques avec, alors là, des chiffres et en même temps des hiéroglyphes qui sont vraiment des hiéroglyphes, qui sont vraiment de l'écriture. Et on a remarqué par les chiffres en particulier qu'il s'agissait, bon, il y a des verbes, il y a des compléments, il y a déjà de la grammaire, si vous voulez, en zapothèque, mais on a retrouvé surtout des signes de calendrier. Calendrier solaire de 365 jours, formé de 18 mois de 20 jours, plus un petit de 5 jours, et puis un calendrier magique et agricole de 13 mois de 20 jours, c'est-à-dire 260 jours. Ça, on sait que les apothèques ont compté si bien. Et à cette première époque, c'est captif. Je pense quand même qu'hypothétiquement parlant, ce serait assez justifié. Quand on s'impose tout à coup, qu'on fait un coup de poing pareil, qu'on pose son poing sur le sommet d'une montagne, d'une colline comme ceci, et qu'on applique ces pierres de plusieurs dizaines de tonnes, et qu'on grave des personnages comme cela, avec ces ablations, avec cette espèce de, je ne vais pas dire souffrance, mais on a l'impression qu'ils sont tous en train de mourir, ou qu'ils sont déjà mourants, ou qu'ils sont déjà morts. Donc en fait, ce serait assez logique par rapport à ce qu'on va voir par la suite, que ce soit ceux d'à côté, qu'on a réussi à capturer, qu'on a sacrifié, et qu'on mette ainsi en publicité en disant « Attention, je suis fort, et je suis celui qui est capable de faire mourir mon voisin. Je suis Monte Alban, je suis celui qui a maintenant le pouvoir et la puissance. »
On poursuit la visite, on se dirige sur le milieu, sur le centre.
Mm-hmm. On pourrait. Il y a effectivement deux bâtiments qui se trouvent dans le centre. Et le premier qui va nous intriguer, c'est le J. On l'appelle J, ok, passons. Mais il a une forme étrange. Il y a tout été orienté jusqu'à maintenant nord-sud. Et puis celui-ci, on ne sait pas pourquoi, il est orienté carrément de façon différente, à 17 degrés du côté ouest par rapport au nord. Il y a une sorte de pointe de flèche, comme ça. Le bâtiment est fini en pointe. Et mm-hmm. puis il y a quelque chose de très curieux. Ça fait 45 degrés de déviation pour le bâtiment lui-même. Et ces 17 degrés dont je parle, c'est une sorte de tunnel qui traverse tout le bâtiment, mais carrément au niveau de la cour, hein, au niveau du patio immense que j'évoquais tout à l'heure, eh bien vous pouvez carrément traverser ce tunnel et vous remarquez qu'il est dévié à 17 degrés nord. C'est une déviation qui est assez propre à tous les bâtiments précolombiens, grosso modo, Teotihuacan, enfin les grandes cités ont souvent eu cette déviation de 17 degrés. Alors ce bâtiment du centre, il m'intrigue encore plus que celui...
On y trouve des plages de pub encore ?
Des plages de pub, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a des plages de pub dans le centre aussi. C'est-à-dire que ce bâtiment a été reconstruit plusieurs fois et on a, à Montalban, pour des raisons techniques et locales, réutilisé les matériaux plus anciens de la première époque. C'est-à-dire mes pages de pub du début, on les a arrachées et puis on les a réutilisées et on les a collées sur d'autres bâtiments. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une deuxième époque. Tout à l'heure, je peux dire que j'étais la première époque. On appelle ça d'ailleurs Montalban 1. Eh bien, au moment de Montalban 2, on remarque quelque chose de curieux. C'est-à-dire les dalles sont plus petites. Et c'est assez logique, en évolution chronologique, disons, les dalles sont plus petites, elles ont été collées sur ce bâtiment J dans le bon sens, mais on a l'impression qu'à un moment donné, elles ont été recouvertes par du plâtre, et que ça arrive souvent que sous le plâtre, on cache autre chose. On cache le passé, en l'occurrence. Donc il y a à la fois des danseurs à l'envers, ou des choses qui ont été reprises de sculptures anciennes en morceaux, et puis là, on découvre quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a une forme, c'est difficile à décrire en radio, mais vous auriez une forme d'escalier, si vous voulez. Vous dessinez un escalier qui monte d'un côté et redescend de l'autre. Donc ça me fait une sorte de hiéroglyphe. Escalier pyramide, et par-dessus j'ai un...
Voilà, vous l'imaginez très bien.
Il y est. Et en dessus, j'aurais peut-être un personnage, ou etc. Mais il y a toujours, en dessous de l'escalier de la pyramide, une tête à l'envers, une tête qui chute, une tête qui tombe, ou une tête qui est coupée, carrément. Et par-dessus, j'ai donc un hiéroglyphe. Alors, il y a un scientifique qui s'est amusé ces dernières années, et qui a pris tous ces hiéroglyphes. Et Frédéric, vous auriez été capable de le faire, parce que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, je vous ai fait le coup du petit oiseau.
En effet, oui.
Et bien là, ce scientifique a repris tous les hiéroglyphes qui se trouvaient sur ces pyramides et il les a mis en correspondance avec les noms actuels des lieux et des villages autour de Montalban, c'est-à-dire dans toutes ces vallées. C'est une région immense, la région zapothèque. Et sur ces centaines de sculptures, il en a retrouvé suffisamment pour qu'ils comprennent qu'en traduction aztèque, parce qu'il y a eu une occupation aztèque après les zapothèques, après les mixtèques, eh bien, le nom soit resté le même. C'est-à-dire, le moment où il a trouvé Tototepec, la montagne de l'oiseau, et qu'il a vu un petit oiseau sur le hiéroglyphe de Montalban de la seconde époque, il a compris que les gens de Montalban n'avaient pas seulement des captifs, comme tout à l'heure, avec des noms de seigneurs, de souverains, de capitaines, et leur hiéroglyphe à côté, qui aurait été avec leur ablation du sexe, si vous le voulez, avec une sorte de sacrifice, mais que là, carrément, à coup de tampon, on aurait mis Lausanne, Genève, Neuchâtel, chaque ville et chaque site que l'on aurait pris si la capitale du moment était vraiment Montalban. Et ça, c'est intriguant parce que là, on comprend que cette deuxième époque, c'est une époque de conquête. On a petit à petit rempli la vallée à partir de ce pouvoir central. Et puis ensuite, vous pourriez vous balader en face sur la grande plateforme qui est au sud. Alors, je vous recommande de monter au sommet, parce que c'est vrai que la vue est éblouissante en fin de journée, lorsqu'on visite juste avant 5 heures, juste avant les coups de sifflet du gardien, et qu'on se trouve au sommet, et qu'on voit déjà cette lumière du couchant, et qu'on voit ces trois vallées qui s'éteignent petit à petit dans la brume, c'est une merveille. Mais cette plateforme-là a été construite, disons son apogée, c'est aux alentours de 200 de notre ère. Et là, on fait une découverte extraordinaire. On sait maintenant que d'après des bas-reliefs, des gens sont venus... Oaxaca est à peu près à 600-650 km de la capitale actuelle du Mexique. Teotihuacan est à 40 km de la capitale actuelle. Eh bien, à un moment donné, les gens de Teotihuacan, pyramide du soleil, pyramide de la lune, cet immense site dont le cœur battait vraiment en 250-200 de notre ère, eh bien, il y a eu des liaisons. On a une construction zapothèque à Teotihuacan et tout à coup, des cardinaux, des gens avec des encensoirs, des gens avec des costumes incroyables, des plumes sur la tête sont descendus à pied de Teotihuacan pour inaugurer l'immense plateforme sur laquelle vous regardez la vue.
And the stars and stripes we can tell. This dream's in sight. You've got to admit it at this point in time that it's clear. The future looks bright. On that train of graphite and glitter, undersea by rail, 90 minutes from New York to Paris, well back, 76 will be A-OK. What a beautiful world this will be. What a glorious time to be free. What a beautiful world this will be. What a glorious time to be free. Il nous reste encore ces 8 bâtiments à la visiter.
Bah oui, là, il faudrait finir le tour. Si on était dans le sens des aiguilles inverses des aiguilles d'une montre, il reste ces 8 bâtiments. Bah, là, il n'y en a qu'un que j'aimerais visiter. Il y a des palais, il y a des cours intérieurs. Ils sont tous fermés les uns sur les autres, comme ça. Et j'ai
donc
bien
là,
dit qu'aucun...
En fait, on va arriver par sur le côté sud, donc. On va ressortir par là.
On va revenir sur le nord en ayant tourné sur le sud. Oh là là, c'est pas important. Mais disons, on est parti du nord, on est allé au sud. Maintenant, on est sur la gauche. Donc, effectivement...
J'ai pensé qu'on l'avait traversé...
Bah oui, là on est à l'est, allons-y. Et au milieu de ces 8 bâtiments, il y en a un qui m'a toujours intrigué. C'est en fait un bâtiment où on a retrouvé un puits. On a appelé ça un puits de lumière. Soleil d'un jour, deux fois par année. Deux fois par année. Un puits de lumière, c'est une chose verticale. Qui descend comme cela en terre, ça a plus de 4 mètres de profondeur. C'est simplement un tube, si vous voulez. Et ce qui est intriguant dans ce puits de lumière, c'est qu'on sait bien... Moi je retiens facilement les dates des deux passages du zénith, enfin, du passage zénithal du soleil à Monte Alban. C'est 8-5 et 5-8. Ça, c'est facile, hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que le 8 mai et le 5 août chaque année, le soleil à midi est vraiment au sommet du ciel. Mm-hmm. Et ça, c'est un moment magique. Parce que tout à coup, c'est les deux moments de l'année où ce soleil va pénétrer dans ce puits. Ouais. Ça n'est pas possible à un autre moment. Mmh. Donc, si vous êtes grand prêtre, si vous êtes dans le côté religieux que vous évoquiez tout au début de notre rencontre, eh bien, c'est vrai que là, dans ce bâtiment P, dans cette cour intérieure, dans ce puits, il y a dû y avoir un moment où le mage, le grand théocrate attend ce moment magique où tout à coup, au fond de sa grotte, au fond de son trou, j'en connais un autre qui est à Xochicalco, c'est encore plus impressionnant, c'est plus de 12 ou 15 mètres de hauteur et vous êtes dans une grotte intérieure qui a été façonnée par l'homme et tout à coup là, quand vous êtes à midi le 5 mai ou le 8 août, crac, la lumière rentre et rend l'endroit absolument éblouissant. C'est vraiment le soleil vient de pénétrer à l'intérieur du puits, il est au fond du puits. Parce que le simple fait que la lumière pénètre comme ça d'un seul coup dans un canon à lumière, comme l'aurait rêvé Le Corbusier, ben l'endroit où vous êtes au fond, le puits et l'intérieur du puits, tout à coup, éclate de lumière. Il n'y a plus d'obscurité.
On peut rentrer
dans celui de Xochicalco, c'est une véritable construction. Mais c'est pour vous dire qu'on a été obsédé par ces passages du soleil qui coupent vraiment l'année de façon tout à fait... Enfin, il y a une façon tout à fait magique. Alors, puisque vous étiez un peu désorienté tout à l'heure, ce côté nord-sud. Oui. Bah, quand vous sortez du site, après avoir vu votre soleil en imagination, là, le 8 mai et le 5 août, eh bien, vous avez un jeu de pelote. Et ce jeu de pelote, obligatoirement, est orienté nord-sud. Et juste avant de sortir, eh bien, vous allez le voir, ici à Monte Albán, il est enfoncé dans la matière. C'est-à-dire qu'il est véritablement creusé à l'intérieur de la place. Il est superbe parce qu'il a gardé encore tout son fond de construction. C'est-à-dire les pierres sont posées les unes sur les autres, comme si vous posez des livres sur une bibliothèque, hein, ou plus exactement pour créer des mini-escaliers avec des livres. Vous n'auriez plus qu'à recouvrir cela d'un glacis fantastique de plâtre, c'est-à-dire de stuc pour les précolombiens, afin qu'il soit bien retenu. C'est-à-dire, ça, c'est assez curieux. Regardez les marches de Monte Albán quand vous le visiterez, et vous verrez que systématiquement, dans l'angle le plus vif d'une marche, il y a toujours une autre petite marche. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que c'est l'angle le plus fragile d'une marche, quand on met du stuc et du plâtre. Le plâtre peut être solide quand on le fait avec des résines, mais enfin, sous votre pied, c'est ce qui va craquer en premier. Alors, en faisant une petite marche supplémentaire, ça accroche mieux, ça tient mieux le plâtre. Il y a des subtilités de construction qu'on voit partout. Il y a encore des décors, d'ailleurs, à gauche et à droite, soit sculptés, soit dans le stuc, qui nous font comprendre que maintenant, d'un seul coup, bien sur ces 6 km², sur ces 20 km², juste avant la sortie, là, ben vous n'avez qu'à vous retourner. Je parlais du Summer de Van Gogh. D'un seul coup, vous allez mettre partout, effectivement, ce glacis de stuc, du rouge, du bleu, du vert. Vous allez me glacer ces 20 km², ou en tout cas ces 6 km² du centre. Vous allez me les glacer pour en faire un véritable gâteau d'anniversaire avec ces deux gros monticules, l'acropole sud, l'acropole nord. Et tout cela, maintenant, vous le laissez briller sous le soleil. Vous mettez un ciel qui est toujours aussi bleu avec ces gros cumulus. La plaine est jaune aujourd'hui. Elle part dans les trois sens. Au fond, vous venez d'entendre, au son de vos mules pratiquement, celle des cloches de Oaxaca. En 1902, il n'y avait là que du vert, que de la végétation. Avant, il n'y avait que du stuc, de la couleur et du soleil.
Et on se retrouve dimanche prochain.